Il a été posé en Italie et en Suisse. Donc, il est écrit en italien. Donc, les Suisses acceptent des brevets en français, en allemand et puis en italien. Pardon? Je suis pas. Tessinois, ils ne disent pas italien? Oui. Ticino. Ouais. Ah oui, c'est ça, oui. Ticino, il y a une marque comme ça. Ouais. Ça, c'est la machine que je vous ai montrée. Et ça, c'est les dernières machines qui étaient extrêmement puissantes. Pour la petite histoire, ces machines étaient capables à l'époque pratiquement de rivaliser avec les machines américaines qui allaient très vite. C'est-à-dire de faire une dizaine d'additions complètes, là, avec tout ceci dont j'ai parlé, à la seconde, ce qui est quand même tourner vite. Donc ce sont des machines qui étaient quand même énormes. Bien que les. Donc le registre, il doit être là. Et il fait 1 cm de haut. Il est tout petit. Voilà. Alors voilà la façon dont le Olivetti fait l'addition ou la soustraction. Oui, je vous ai pas donné d'exemple d'addition, mais je vous ai donné 2 exemples de soustraction, c'est-à-dire soustraction avec inversion de signe et etc. Vous avez les mêmes choses pour l'addition, addition avec inversion de signe, c'est-à-dire qu'on a ajouté un nombre négatif et un nombre positif. Le nombre positif est plus grand, donc il y a inversion de signe. Le nombre positif est plus petit, il n'y a pas inversion de signe. Il est assez facile, enfin ça n'importe rien de faire tous les exemples. Bon, j'en ai terminé pour ça. Donc maintenant, je vais parler d'une troisième machine qui est encore bâtie sur des systèmes un peu différents. Et pour expliquer cette machine, donc dans un but pédagogique, je vais d'abord expliquer la machine de Tchelitchev, qui est une machine très simple et dont s'est inspiré, enfin le même principe a été utilisé après pour les. Le nom, enfin, finalement, pour les machines marchands et quelques machines intermédiaires. Oh zut, le nom m'échappe, c'est pas très grave. Donc voilà, donc je commence par Tchelitchev, parce que c'est une machine marrante. Alors, Tchelitchev dit, bah, finalement, les propagations de retenue, là, c'est quand même embêtant. On va faire un truc extrêmement simple. On va, par un jeu d'engrenage, on va diviser un mouvement de rotation par 10, c'est-à-dire que si on tourne d'un chiffre, on va tourner d'un dixième de chiffre. Donc on divise par 10, et on va utiliser un système différentiel pour faire la somme de la rotation qui arrive là et la rotation qui arrive là. Donc la propagation de retenue, c'est simple. Chaque fois que ce truc-là a fait un tour complet, celui-ci fait un dixième de tour plus ça, et puis etc. Donc ça marche. Alors il se trouve qu'il ne faut pas beaucoup d'engrenages, pas beaucoup de pièces pour faire ça. Et donc Tchelitchev avait proposé en 1876, il a fait cette machine-là, qu'il a fait fabriquer en France d'ailleurs, parce que très vraisemblablement, enfin c'est mon explication, il n'avait pas à Saint-Pétersbourg les mécaniciens nécessaires. Et voilà comment se présente cette machine. C'est donc une machine à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce que l'on voit particulièrement ici, c'est le mécanisme d'entrée de la machine, qui sont des crémaillères que l'on fait tourner avec une pointe. Et donc, pour ajouter 3 sur les unités, par exemple, ça c'est 0, 1, 2, 3, je vais mettre la pointe d'un crayon ou n'importe quoi là-dedans, et puis je vais le ramener à 0. Alors, ce qui est bien avec cette machine, c'est que si maintenant je soustraire 3, eh bien, je mets la pointe du crayon dans 0, et puis, en sens inverse, j'amène le truc à 3, et puis ça soustrait. Alors, celle-ci, c'est une photo de machine qui est à Saint-Pétersbourg. Le CNAM a la même, enfin, a une autre version plus tardive. Et oui ?
On est dépendant de la précision, là, c'est analogique.
Oui et non, c'est une très bonne question. Oui et non. Et effectivement, l'afficheur est totalement dépendant de. Mais on va voir un peu plus tard que même si ça a du jeu, ça accumule toujours, ça fait bien l'addition. Ça fait bien effectivement l'addition. Par contre, le résultat, la lisibilité du résultat dépend de la précision des engrenages. Mais le fait qu'on ait fait des opérations, enfin, si c'est peu précis, c'est illisible. Voilà.
Non. Non.
Voilà, non, n'anticipons pas. Voilà, vous avez tout à fait raison. Alors, donc, comme je vous ai expliqué, quand on va ajouter un nombre, Enfin, on peut ajouter les chiffres dans l'ordre que l'on veut, évidemment, dans toutes ces machines. Donc, on introduit un stylet là-dedans. Dans un sens, on additionne. Dans l'autre sens, on soustrait. Et on a ici, je ne sais pas si ça se voit bien, un couvercle qui est en tôle, mince. Ce couvercle est... Il y a des échancrures pour passer ces roues-là qui servent d'entrée du système. Et puis, il y a des petites fenêtres qui cherchent à marquer le résultat. Et comme vous voyez, dans ces petites fenêtres, le résultat est loin d'être aligné, puisqu'il se balade tantôt en haut et tantôt en bas de la fenêtre. Et d'ailleurs, Tchebychev explique, dans un français parfait, en fait, à l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, il parlait le français, et il avait un français très... très précis et très fleuri à la fois, que effectivement on voit deux choses. Alors j'y viens. Pour expliquer comment cette machine, je vais prendre des petites conventions de dessin, c'est dommage, les couleurs n'apparaissent pas là. Là, j'ai représenté deux engrenages, l'un qui a 48 dents et puis l'autre 24, ça vous évite de les compter. Puis je vous ai représenté le même engrenage en perspective cavalière, mais tournée de 45 degrés. Puis je vous ai présenté cet engrenage vu par la tranche. Or, pour expliquer cette machine, j'ai besoin de montrer des engrenages par la tranche, comme tous les mécaniciens d'ailleurs, je ne sais pas. Et donc, par la tranche, on ne voit pas grand-chose, alors que de face, on voit très bien de quoi il s'agit. Par la tranche, on ne voit pas grand-chose. Et donc, les mécaniciens utilisent une abstraction, une notation avec des bâtons de couleur. Ceci représente l'engrenage bleu avec son axe. J'ai mis en noir tout ce qui ne bougeait pas et en couleur tout ce qui était ensemble. Et donc cet engrenage peut tourner en glissant, si vous voulez, autour de son axe, avec friction, mais en glissant. Et puis il peut tourner, mais cette fois-ci sans glissement, il peut entraîner sans glissement l'autre engrenage, donc j'ai marqué par un petit pointillet l'endroit où il y a des dents, et puis par rien du tout l'endroit qui est lisse. Et puis j'ai marqué par des chiffres le nombre de dents, 24 en haut, 48 en bas, donc on voit que si celle-ci, par exemple en bas, fait un tour complet, celle-ci fera deux tours, et réciproquement. Donc je vais beaucoup m'attacher à ce petit dessin qui est dans une certaine mesure, normalisé, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit des bouquins sur les engrenages, effectivement. Enfin, peut-être qu'on n'en écrit plus, mais pendant une certaine période, on en écrivait beaucoup. Et donc, il les dessine comme ça. Enfin, à peu près. Donc ça, c'est extrait d'un petit manuel d'époque, là, 1895, Bulletin de physique expérimentale, qui est écrit en russe. Mais fort heureusement, les variables et les chiffres sont écrits en chiffres romains et les variables en, en,